Madame Thuy, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous avez fait plusieurs métiers dans la vie. Vous pourriez pratiquer comme avocat, mais vous n'avez pas renouvelé votre licence. Vous avez déjà été restauratrice, mais ça, c'est terminé. Vous avez été interprète, mais vous laissez maintenant aux autres le soin de traduire vos romans. Est-ce que vous êtes, dans le fin fond des choses, dans votre fond intérieur, encore une réfugiée?
Oui, tout à fait. Et ce que vous avez décrit est le parcours typique, je crois, d'un immigrant. C'est-à-dire, on prend ce qui vient, on prend les options qui se présentent à nous, les possibilités qui s'ouvrent devant nous. Et je pense, ça nous donne cet état d'immigrant, d'immigrant ou de réfugié, nous donne la notion de l'impermanence, probablement, et aussi une facilité pour s'adapter. Oui, j'ai cette facilité-là de bouger d'un endroit à l'autre, tout comme d'un métier à l'autre. Il n'y a pas d'attente. Donc, pour moi, si demain, j'arrête d'écrire et que je dois, je sais pas, retourner sur le marché du travail normalement et aller laver de la vaisselle, ça ne me dérange pas parce qu'on a déjà traversé toutes ces étapes-là. Et je n'ai plus peur, si vous voulez, de me retrouver dans un état de réfugié au premier moment, là, dans les premiers jours.
Donc, vous acceptez les états de permutation. Pour vous, c'est quelque chose qui fait partie de la vie.
Oui, parce qu'on a appris que la vie peut changer très rapidement.
Est-ce qu'il y a un drame associé à votre voyage vers le Canada alors que vous étiez une réfugiée, vous étiez à bord d'un de ces bateaux?
Je vous dirais que nous, non. Personnellement, non. Mais évidemment, ce n'est pas le cas pour tous les voyages en mer. Il y a eu beaucoup de viols, beaucoup de vols et beaucoup de noyades également parce que les bateaux n'étaient pas faits pour la haute mer. Et donc, il y a eu beaucoup de bateaux qui coulaient tout simplement en pleine mer avant d'arriver. Et il y a même certains bateaux qui, ne sachant pas où ils allaient, comme nous tous, ils se retrouvaient sur les rives vietnamiennes et ils allaient directement en prison dans ces cas-là. Et donc, dans notre cas, c'était vraiment presque l'exception et non pas la règle de pouvoir traverser en 4 jours, ce qui était très court, la mer pour arriver en Malaisie.
Dans votre cas, si la mer vous avait repoussé vers le Vietnam, cette histoire-là ne se terminerait peut-être pas comme elle se poursuit actuellement.
Tout à fait. On aurait été en prison et probablement on n'aurait pas été capable de se relever de cet épisode-là, probablement.
Et vous avez été rapidement. On vous a choisi, oui. On vous a sélectionné. Le Canada est passé au camp de réfugiés comme d'autres nations?
Oui. Et la première délégation qui est passée par le camp quand on est arrivé, c'était la délégation canadienne parce qu'ils faisaient quand même la tournée ou sinon une rotation là dans les différents camps en Asie du Sud-Est à ce moment-là. Et parce que mes parents parlaient déjà anglais-français et aussi parce que mon père était politicien et on se retrouvait justement dans la catégorie des réfugiés politiques. Et évidemment, ça facilitait beaucoup la sélection, si vous voulez, de la part des pays qui se
présentaient à la porte, oui.
Ouais.
Le voyage s'effectue rapidement vers le Canada. Vous arrivez à Granby.
Oui.
Au cœur du Québec.
Oui, je ne sais pas si Granby est au cœur du Québec, mais
pas loin.
Pour moi, c'est sûr que Granby est la deuxième ville, ma deuxième ville de naissance. On y a habité seulement pendant un an, sauf que Granby nous a offert vraiment, vous savez, comme les enfants. Les premières années sont les plus déterminantes, et dans notre cas, la première ville, les premières personnes qui nous ont ouvert leurs bras étaient les sauveurs. Et je les vois encore comme ça, parce que c'était plus que juste... le côté logistique, nous aider de trouver un appartement, de nous guider où aller acheter du sucre, tout simplement, par exemple, ou comment s'habiller. Mm-hmm. On ne savait pas comment s'habiller dans un pays froid. On avait toujours porté des sandales ou sinon des babouches et d'apprendre que non, pendant l'hiver, il faut changer les bottes parce que sinon on sue dans les bottes et après on gèle encore plus une fois qu'on ressort dehors.
Il y a beaucoup de choses à apprendre,
ça, on devait apprendre.
Ouais.
Mais je vous dirais, ça, c'est le côté pratico-pratique. Mais il y a autre chose, ce que les gens de Granby, quand ils nous ont reçus, c'était avec toute l'affection, tout le côté intangible que je ne pourrais pas vous nommer de façon exacte par un fait ou par un geste, mais juste dans le regard. Vous savez, la façon qu'ils nous ont accueillis, comment ils nous ont regardés.
Regardez.
On avait l'impression d'être, de voir la lumière pour la première fois. Et dans mon cas, la façon qu'ils m'ont regardé, je n'avais jamais ressentie aussi belle qu'à ce moment-là, à ce premier regard-là quand on a débarqué de l'autobus. Et oui, donc ils m'ont vraiment redonné ils m'ont donné en fait cette deuxième vie-là. Je vous dirais, c'était mon premier moment au Canada et ça restera toujours le premier amour.
Est-ce que les gens sont encore intéressés par votre histoire?
Ah, mais ça dépend, hein? Je vous dirais, peut-être à mon mari, il s'endormirait tout de suite si je commençais à raconter mes histoires, parce qu'il les a déjà entendues trop de fois, ou sinon il me connaît par cœur. Peut-être, oui, les nouvelles personnes, mais je pense qu'il est rare que je raconte l'histoire juste pour raconter l'histoire. Il y a toujours un but à tout ça, comme si je rencontre, par exemple, des décrocheurs qui retournent à l'école dans un centre de formation pour adultes. Ben pour eux, je raconte pas l'histoire juste pour leur dire que j'ai fait un bateau qu'on trouvait ça très difficile. J'ai raconté ça tout simplement pour leur dire que tout est possible, qu'on peut repartir de moins que zéro pour arriver quelque part. Que j'étais un peu la preuve vivante que la chance existe, que le travail récompense d'une certaine manière. Cette histoire-là, je vous dirais, j'ai aucun plaisir à la raconter juste pour raconter. Si je la raconte, c'est pour donner espoir très souvent de persévérer, de toujours oser faire un pas de plus, de continuer à faire un pas. Et je sais que la phrase est un peu trop utilisée, banale et convenue, mais ce que Barack Obama a dit, l'audacité de l'espoir, hein, audacity of hope, c'est exactement ça, c'est d'avoir l'audace de croire que c'est possible de continuer. Parce que très souvent, on va se décourager avant, au premier obstacle, au premier mur, ou sinon avant même qu'on frappe le mur. On abandonne déjà parce qu'on pense qu'on ne pourra jamais dépasser le mur. Ce qu'on oublie, c'est que le mur bouge.
Ah bon?
Oui, que l'horizon bouge. Et quand vous regardez tous ceux qui ont continué à marcher, c'est parce que quelque part, ils n'ont pas peur d'arriver jusqu'au mur, d'arriver au moins jusqu'au mur. Mais très souvent, le mur s'écarte, en fait, quand on arrive.
Kim Thuy, merci beaucoup, puis à la prochaine.
Merci, à la prochaine.